L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louage, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Henri Douetaille, président de la Chambre de commerce et de l'industrie ivoiro-russe, et Natalia Pashkeeva, interprète et communicatrice de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS en Russie. Avec eux, nous allons discuter du premier forum de l'investissement russe en Afrique qui se tiendra en novembre à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Nous nous pencherons en particulier sur les besoins et les attentes des pays africains dans les divers secteurs de l'économie ainsi que dans la formation et le transfert de technologies. A tout de suite sur les ondes de Radio Spoutnik Afrique. Les progrès économiques durement accomplis par le continent africain au cours des 20 dernières années, qui sont essentiels pour relever le niveau de vie, doivent être consolidés à tous les niveaux afin de minimiser les obstacles qui empêchent leur épanouissement. En effet, les niveaux élevés de dette publique et l'incertitude qui entoure l'aide internationale limitent les possibilités d'encourager la croissance par de vastes programmes d'investissement public. Pour que ces pays enregistrent une reprise solide et évitent la stagnation économique, le secteur privé devra contribuer davantage au développement économique. Les infrastructures, tant que physiques comme les routes et la production électrique, que sociales comme la santé et l'éducation, constituent un domaine dans lequel le secteur privé pourrait s'impliquer davantage. Les besoins en développement infrastructurel sont immenses en Afrique, de l'ordre de 20% du PIB en moyenne d'ici la fin de la décennie. Alors, comment financer ces projets ? Toutes choses étant égales par ailleurs, les ressources proviendraient en premier lieu d'une augmentation des recettes fiscales à laquelle s'emploient déjà la plupart des pays. Mais compte tenu de l'ampleur des besoins, il faudra mobiliser de nouvelles sources de financement auprès de la communauté internationale et du secteur privé. Le continent africain regorge d'occasions pour les investisseurs privés. Sa population est jeune et de plus en plus nombreuse. Les ressources naturelles y sont abondantes. Ces villes enregistrent une croissance massive. Qui est plus est, de nombreux pays ont lancé des initiatives à long terme en vue de leur industrialisation et de leur transformation numérique. Cependant, des investissements et des innovations considérables seront nécessaires pour libérer tout le potentiel de la région. Selon des travaux publiés récemment par les services du FMI, d'ici la fin de la décennie, le secteur privé pourrait apporter chaque année des financements supplémentaires en faveur des infrastructures physiques et sociales équivalent à 3% du PIB de l'Afrique subsaharienne. Cela représente environ 50 milliards de dollars par an sur la base du PIB de 2020 et près d'un quart du taux d'investissement privé moyen dans la région qui est aujourd'hui de 13% du PIB. Le rôle restreint des investissements privés en Afrique est également manifeste sur le plan international. Le continent n'attire que 2% des flux mondiaux d'investissements directs étrangers. En outre, ces rares investissements se concentrent sur les ressources naturelles et les industries extractives et non sur la santé, le réseau routier ou l'eau. Alors pour parler de cet aspect fondamental du développement de l'Afrique, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Henri Douetaille, président de la Chambre de commerce et de l'industrie ivoiro-russe, et Natalia Pashkeeva, interprète et communicatrice de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS en Russie. Henri Douetaille, Natalia Valérievna, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci, mon cher. Merci de nous accueillir et de permettre qu'on puisse développer l'association africaine.
D'accord. Alors, la première question, Monsieur Taille, vous êtes à la tête du comité d'organisation de ce premier forum d'investissement russe en Afrique qui se tiendra les 28, 29 et 30 novembre à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Alors, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la genèse de cette idée que vous avez certainement vous-même pensé et pourquoi vous avez choisi de l'organiser dans le pays du Faso?
Merci. Vous savez, ça fait depuis 2004 que je traverse et que je visite encore la Russie. Et depuis 2004, j'ai constaté que rien n'a été fait pour réellement pour le développement de l'Afrique à l'égard de la Russie. Et surtout, pour l'esprit de partenariat. J'arrive souvent au forum, je constate toujours qu'il y a des réunions, mais pratiquement, je ne vois rien. C'est pour ça que j'ai réfléchi, je me suis dit, si réellement la Russie veut s'implanter en Afrique, il faudrait qu'elle participe à des salons d'investissement dans nos continents. Il ne s'agit pas simplement de faire des palottes, de parler de gauche à droite, mais il s'agit aussi de mettre en pratique ce que nous voulons faire. Et nous, Africains, nous voulons que la Russie pénètre sur le plan économique l'Afrique. Et il faut qu'elle pénètre. Elle nous a aidés à un moment donné.
Après les indépendances, je suppose.
Pour avoir nos indépendances. Elle nous a aidés financièrement, matériellement. Mais hélas, elle est répartie. Je ne sais pas pourquoi elle est répartie. Et nous voyons d'autres pays exploiter énormément l'Afrique. Sans vergogne. Pour eux, c'est la vache de tiers. Il faut exploiter. Et nous avons marre de ça.
D'accord. Bien. Alors, Natalia Valérievna, vous êtes en lien avec beaucoup d'entreprises russes dans pratiquement tous les domaines de l'industrie, notamment celles qui sont chapeautées par l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS. Je crois que vous seriez d'accord avec Henri Douetaille qui dit qu'il y a eu beaucoup de forums, de signatures de mémorandums, mais moi je comprends d'après ce qu'il dit, il faut trouver les partenaires maintenant, ceux qui sont capables d'aller et de réaliser des projets communs. Alors, par rapport à ça, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette organisation et des différentes entreprises qui travaillent sous sa coupe? Et puis, pensez-vous que les entreprises russes sont intéressées par le marché africain? Pouvez-vous nous en citer quelques-unes, par exemple, que vous connaissez? Je suis sûr que vous en connaissez.
Bonjour et avant tout, merci beaucoup pour votre invitation. C'est avec un grand plaisir que je vais donner mes commentaires sur les questions de coopération russe-africaine parce que moi, personnellement, je suis persuadée que le continent africain, c'est une sorte d'Eldorado économique, culturel et la coopération russe-africaine a beaucoup de projets, beaucoup de perspectives et je pense que nous pouvons faire tout notre possible pour réaliser tous les projets. Alors, en Russie, il y a une organisation, c'est Alliance BRICS, qui s'occupe des projets stratégiques. Et les mots-clés pour la mission de cette organisation, c'est avant tout la coopération. Oui, c'est la coopération réelle et pas de belles photos pendant les forums et la signature des mémorandums. Et les partenariats. Et pour souligner cette idée clé, je peux dire que maintenant, il y a plus de 800 projets qui sont déjà réalisés.
En Afrique?
Non, pas toujours en Afrique. C'est dans 56 pays du monde. En Afrique, bien sûr, il y a aussi des projets communs, plutôt dans les domaines humanitaires. Ce ne sont pas les domaines de la coopération économique, mais maintenant, on travaille sur le projet commun avec l'Université de Kenya pour l'agriculture. Mais bien sûr, il faut développer d'autres secteurs, mais comme les secteurs clés, clés. Je peux nommer plutôt les questions énergétiques, parce que l'électricité, les questions énergétiques, c'est comme le sang pour toute la vie, et non seulement pour le développement industriel, mais c'est aussi la garantie de l'infrastructure sociale. Et ça peut influencer le niveau de vie de la population, ce qui est le plus important, parce que pour les membres de l'Alliance BRICS, ce sont les humains qui sont au centre de toutes les missions industrielles, économiques et culturelles. Mais c'est très important d'assurer un bon niveau de services médicaux, de l'enseignement et d'autres choses. Et c'est l'égalité qui compte. Au sein de l'Alliance BRICS, il faut qu'on reste, il faut qu'on soit égaux dans nos droits et dans nos possibilités. Voilà, et c'était très bien dit et très métaphorique que maintenant, l'Afrique, c'est comme une vache laitière. C'est pourquoi, grâce aux efforts des membres de l'Alliance BRICS, des entreprises qui sont enthousiasmées par l'idée de la coopération commune gagnant-gagnant et bénéfique pour tous les pays de réaliser nos projets. Alors, j'ai déjà commencé par les entreprises énergétiques et moi, personnellement, depuis longtemps, je travaille avec le groupe des entreprises de ma région natale, de Perm, avec le groupe Spoutnik qui propose les idées innovantes et des solutions techniques innovantes dans le domaine de l'énergie de toutes sortes, renouvelables, recyclables et autres choses. On a commencé déjà à négocier certains projets avec la République démocratique du Congo, bien sûr avec Côte d'Ivoire, potentiellement avec Algérie et avec d'autres pays. Ensuite, ce qui est très important, parce que moi, je partage avant tout des valeurs humanistes et humanitaires, c'est la santé publique. C'est pourquoi... je pense que c'est le domaine pharmaceutique qui est représenté par l'un de nos membres, c'est le groupe des entreprises Himrar, dont l'histoire est vraiment impressionnante. Et les conséquences et la période dure pour tous les pays de Covid a montré leur potentiel scientifique, parce qu'ils ont proposé les médicaments contre cette maladie. Et c'était aussi... négocié par certains pays d'Afrique pour organiser les achats ou même de construire les usines sur le territoire des pays africains pour donner la possibilité aux populations de travailler et de produire les médicaments dans les quantités suffisantes pour la population. Et troisièmement, ce sont les questions de sécurité. Oui, on est au 21e siècle, mais hélas, les questions de sécurité se posent régulièrement, et vous me comprenez très bien.
Oui.
C'est pourquoi on coopère étroitement avec une grande entreprise qui réalise les projets dans le domaine de la sécurité du trafic aérien, ce qui aussi pourrait contribuer à l'indépendance des pays africains. C'est très important. Il ne s'agit pas de l'utilisation des territoires de ces pays juste pour rachat des matières premières, mais c'est l'indépendance, la sécurité et le potentiel qui devrait être avant tout mettre en valeur par la réalisation de tous les projets par des entreprises.
Ben, merci beaucoup. C'est très, très encourageant.
Merci.
C'est très, très encourageant, tout ça. Bien, alors, pour continuer dans le même sens, alors bien que l'Afrique présente, c'est ce que Natalia Valerievna vient de dire, présente énormément de possibilités, de potentiel et tout, alors de faire des affaires pour les entreprises russes notamment, mais pas uniquement russes, dont toutes les entreprises issues du pays des BRICS. Alors le nombre de projets qui sont réellement prêts pour l'investissement, malheureusement en Afrique, reste faible. Bien, alors il s'agit de projets qui sont à un stade de conception suffisamment avancé pour intéresser les investisseurs qui ne souhaitent pas investir dans des projets en cours d'élaboration ou sur les marchés méconnus. Donc c'est un problème que tout le monde connaît et en face de quelles tout le monde aussi peut buter. Alors, Henri Douétail, comment l'appui financier et technique de bailleurs de fonds et de banques russes de développement peut-il aider les pays à financer des études de faisabilité, la conception de projets et d'autres activités préparatoires qui élargiront le réservoir de projets bancables, c'est-à-dire des projets prêts à être financés et à être exécutés sur le terrain?
Merci, merci mon frère, merci, merci. Je n'ai pas répondu tout à l'heure, à la question pourquoi on a choisi le Burkina pour organiser le salon.
Oui.
C'est très simple. C'est un pays qui se cherche, sa souveraineté. C'est un pays qui se bat pour être lui-même, pour que son peuple soit lui-même. Et j'ai pensé à lui, à ce pays. Et j'ai été voir le chef d'État, le président de la République, qui m'a bien reçu. Et je lui ai proposé le projet. Il a accepté de parrainer, de patronner ce projet. C'est pour ça, pour la première édition, j'ai choisi le Burkina. La deuxième édition, elle aura lieu peut-être en Guinée équatoriale.
D'accord.
Maintenant, parlons d'abord du Burkina. On m'avait parlé des banques. Notre objectif, c'est que la Russie crée des banques, des agences de banques.
Ou peut-être un fonds souverain, ou peut-être des fonds d'investissement. Afrique, il y a les formules,
Beaucoup de formules. Il faut qu'elles créent. Il faut que ça existe. Avec un partenariat avec les banques de l'Afrique. Parce que les banques que nous avons aujourd'hui, surtout le pays, l'Afrique de l'Ouest, qui est un peu francophone, ce sont que les agences des banques françaises. Il faut aller au-delà de ça. Il faut changer. Il faut que nous ayons des banques partenariat avec la Russie. Des institutions financières.
Et en ce qui concerne justement la mise au point de projets qui répondent réellement aux besoins et des projets pratiques ficelés avec des études technico-économiques, est-ce que les entreprises russes aussi, vous souhaitez, est-ce qu'elles participent à ce genre de travail ou il y a déjà des entreprises africaines qui ont déjà commencé dans ce sens?
Moi, personnellement, j'ai essayé, j'ai même envoyé un rapport pour créer une institution financière. En rapport avec, en partenariat avec les banques russes. Et nous disons qu'aujourd'hui, des États africains peuvent avoir les banques et être en rapport et en partenariat avec des banques russes. Il faut ça. Il nous faut ça.
Non, ça j'ai compris, parce que justement, les financements, c'est quand les projets sont viables. C'est-à-dire que les études sont prêtes et que par rapport à ça uniquement.
Il y a des juges prêtes par les États.
D'accord.
Les États ont beaucoup d'études. Ils ont des projets, des grands projets.
Comme dans l'énergie, par exemple, pour le Burkina Faso.
Dans l'énergie, dans l'agriculture, dans l'éducation. Ils ont des projets. Mais il faut des financements.
D'accord.
Il faut des financements.
D'accord. Bien. Alors, pour aller dans le même sens, Natalia Valerievna, quel est votre avis sur cette question, sur cette même question? Parce que on peut bien comprendre que les entreprises russes aient peur aussi, parce que c'est un marché qu'elles ne connaissent pas encore, où elles n'ont pas encore travaillé. Et c'est très important de voir qu'il y a un travail sérieux de fond qui est fait et que quand on parle que les Africains souhaitent avoir des partenaires, donc il faut qu'il y ait aussi en face, en Afrique, des partenaires qui ont des choses à proposer sérieusement, avec toutes les conditions nécessaires, bien ficelées. Alors, et cela pourrait-il, parce que c'est ça le problème, s'il n'y a pas ce genre de travail, cela pourrait, et ça se comprend parfaitement, pourrait dissuader beaucoup d'entreprises de ne pas s'aventurer en se disant, voilà, l'Afrique, nous ne connaissons pas, et il vaut mieux faire attention. Et avez-vous déjà eu affaire à ce genre de problème? Et je pense que c'est une question très importante à expliciter pour nos auditeurs africains.
Oui, bien sûr, cette question est très importante et la réponse, peut-être je commence par la réponse banale, mais c'est comme ça, parce que le problème, c'est toujours le mode de paiement. Quand même, la Russie et les pays d'Afrique sont vraiment très, très éloignés. Et c'est toujours la question de deux modes de paiement qui se posent. Mais maintenant, après la pandémie, après le changement de monde de travail et même dans mentalité, je pense que c'est un très bon moment pour le développement des outils des paiements numériques bancaires. Mmh. Il s'agit des outils vraiment spécifiques qui peuvent être implémentés.
Comme les crypto-monnaies.
Absolument.
Comme les crypto-monnaies.
Oui. Qui peuvent être et qui devraient être utilisés comme le mode de paiement pendant la discussion, la négociation des contrats. Et bien sûr, s'il s'agit des partenariats et des alliances, notamment sur l'alliance BRICS, je peux dire que le président de cette organisation, c'est Larisa Zelensova, qui a vraiment déjà réalisé beaucoup de projets, mais ce qui est très important, parce qu'elle est toujours prête à contrôler le développement, la réalisation et, si on peut dire comme ça, les conséquences de toutes les négociations et de tous les projets. Et Alliance BRICS possède d'une large variété des contacts avec les institutions financières du pays à plusieurs niveaux, ce qui est très important et ce qui peut aussi faciliter les communications et le choix de solutions de ce problème qui est vraiment aigu et qui est vraiment très souvent très compliqué à résoudre par les entreprises russes. Parce que voilà.
Déjà, on peut rajouter dans le contexte des sanctions, c'est encore.
Absolument.
La problématique, elle est encore plus dure.
C'est pire.
Oui, c'est pire. Et puis, c'est la question des livraisons de logistique qui se pose pour notre pays, pour les échanges avec les pays africains. Mais comme ça, c'est une piste de réflexion et de développement des entreprises qui peuvent reconceptualiser les modes de livraison logistique. C'est très bien pour reconceptualiser les transports choisis. Bien sûr, il y a beaucoup de difficultés, mais à notre avis, il y a plus de possibilités. Et si je peux me permettre une sorte de métaphore, le continent africain, maintenant, c'est comme un tigre avant le saut. On peut même comparer, mais
c'est
oui,
vrai, c'est vrai.
Mais oui, c'est rigolo, mais c'est vrai. Et on peut même comparer un tout petit peu, pas comparer, mais faire une parallèle un peu historique des pays africains et de la Chine du début de siècle précédent.
Oui.
Parce que c'était comme ça. Et personne ne croyait pas au potentiel économique et financier de la Chine. Et maintenant, l'Afrique est en même situation. C'est pourquoi je pense que les entreprises russes doivent bien comprendre la situation, choisir correctement les outils, les instruments financiers. Et bien sûr, pendant tous les forums, peut-être ce sont les panels qui pourraient être consacrés aux relations financières et notamment bancaires qui devraient être mises en priorité, non seulement de belles discours, voilà. Des speakers et autre chose. Nous, Alliance BRICS, pardon, nous sommes plutôt pour la coopération réelle et pour plan d'action, étape par étape.
D'accord. Allez-y, monsieur.
Et Nathalie a parlé de l'éloignement de la Russie. J'ai dit que ça, c'est un faux problème. La Chine était éloignée de l'Afrique.
Absolument.
La Chine.
Elle a beaucoup d'investisseurs. C'est le premier investisseur en Afrique.
Oui. Et puis, des fois, on me parle de la langue. De la langue. Et je parle chinois. Pourtant, les Chinois font des affaires énormément en Afrique.
Oui.
Donc, laissons, ne parlons pas de langue, ne parlons pas d'éloignement. Prenons la volonté de vouloir faire. Nous allons réussir.
D'accord. Alors, et pour terminer, Natalia Valiervna, sur l'aspect technique de préparation des projets, parce que même ça, ça pose un problème. Il y a un peu de... Il y a un manque partout en Afrique, dans tous les domaines.
Oui.
Et est-ce que, justement, les entreprises russes, ça, la non-préparation, par exemple, dans la mise en place de projets prêts à être exécutés, ça ne va pas les effrayer? Et en plus de ça, est-ce qu'elles sont même... elle serait même intéressée ou prête à participer aux ces études, aux, qu'en pensez-vous
à ce projet?
Je pense qu'ils peuvent être non seulement intéressés, mais motivés et voilà. Inspirés par ces perspectives.
Merci.
Parce que maintenant, il y a les projets qui se développent, mais c'est... On peut dire que c'est plutôt le plan de projet des constructions des usines pour la production des engrais. Parce
D'accord.
que ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Pour les Russes, pour les entreprises russes, c'est la possibilité de diffuser la technologie. Mmh. Et pour les Africains, c'est la possibilité de résoudre le problème d'agriculture, de chômage et d'augmenter le niveau de vie de population. Il faut bien choisir les secteurs. Pour les entreprises russes, parce que le potentiel du continent africain est vraiment énorme. Et encore une chose, si nous revenons pour les parallèles avec la Chine, avec le continent d'Afrique, c'est pas le commencement dès le début, Russie, Afrique. À mon avis, c'est plutôt l'époque de Renaissance. Parce que pendant l'Union soviétique, il y avait les professeurs, il y avait des militaires qui aidaient à protéger le continent.
Dans tous les domaines, même dans l'ingénierie.
Les médicaments, les ingénieurs, c'est très important.
La santé même.
Oui, oui, oui.
Il faut juste se rappeler un tout petit peu de notre histoire et de se mettre dans cette époque de Renaissance.
Voilà.
D'accord. Bien. Alors... Si j'ai bien compris, pour vous deux, hein, les perspectives sont assez grandes pour faire réussir ce premier forum de l'investissement russe en Afrique, en commençant par le Burkina Faso. Et là, je rappelle, justement, le Burkina Faso, il est même intéressé par la technologie nucléaire. Il a demandé à la Russie de l'aider à construire une centrale nucléaire électronucléaire qui sera non seulement pour dédié à la production d'électricité, mais autre chose s'il est nécessaire. Et à ce point aussi, je peux rajouter que la Russie donne un gage de sérieux dans ce domaine, en particulier dans ce domaine du nucléaire, oui. qui est un domaine extrêmement sensible et très stratégique. Et je rappelle à cet effet qu'il y a déjà une centrale nucléaire qui est en train d'être construite par la Russie en Égypte. Et sur 10 ans, c'est une immense centrale de 4 réacteurs de 4,2 gigawatts. Cette centrale va fournir à peu près un peu plus que 50% de l'électricité de l'Égypte d'ici 10 ans. Et donc, dans ça... Il y a la formation qui est intégrée, il y a le transfert de technologie qui est intégré, il y a, parce que les centrales nucléaires, c'est pas uniquement un bâtiment ou un réacteur, mais il y a tout un tas de métiers d'ingénierie, comme la chaudronnerie, la soudure, beaucoup, le béton, la construction, qui peuvent être, après avoir terminé la construction, répartis dans tous les autres secteurs de l'économie où ils peuvent participer. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mes invités Henri Douetaï et Natalia Pashkeeva pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Suivez Spoutnik Afrique sur son site internet, sur les plateformes de podcast et sur les ondes de votre radio préférée. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Afrique en marche, zone de contact et marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Je rappelle que mes invités sont aujourd'hui Henri Douetaille, président de la Chambre de commerce et de l'industrie ivoiro-russe, et Natalia Pashkeeva, interprète et communicatrice de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS en Russie. Henri Douetaille, Natalia Valérievna, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'entretien. Bien, alors je m'adresse à vous, monsieur Henri Douetaille. La réalisation de l'aspiration de l'agenda 2063, à savoir une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, exige que l'Afrique fasse d'importants investissements dans le domaine de l'éducation afin de développer son capital humain et social pour une révolution de l'éducation et des compétences en mettant l'accent sur l'innovation, la science et la technologie. Alors, pour sortir du sous-développement, des pays africains sont tenus de réorienter leur système d'éducation et de formation afin de répondre aux besoins en matière de connaissances, de compétences, de qualifications, d'innovation et de créativité qui sont nécessaires à la promotion d'une économie de connaissances et de l'innovation. Alors, qu'attendez-vous justement de ce point de vue des entreprises russes dans ce domaine de la formation et du transfert de technologie? Et cette thématique, qui me semble non seulement centrale, mais fondamentale, parce que l'économie en réalité, c'est la créativité humaine, c'est pas autre chose, ce n'est ni l'argent ni les matières premières. S'il n'y a pas les têtes qui mettent l'argent et les matières premières ensemble pour faire quelque chose qui fait avancer la société, ça ne marche pas. Alors, qu'attendez-vous justement et est-ce que cette thématique sera au centre de votre forum à Ouagadougou?
Naturellement, on parlera de la culture, on parlera de l'éducation. Mm-hmm. Parce que l'éducation, c'est la base de tout.
Absolument.
Un pays qui n'a pas de savoir-faire, qui n'a pas de cadre, n'est rien. Donc, il faut... Vous savez que la Russie a tout. Hein. Vous avez vu le Cuba? Vous avez, on me parle souvent des auteurs de Cuba, de la médecine.
La médecine, oui, c'est vrai. Ils sont réputés à être parmi les meilleurs dans le monde.
Ils ont été formés par qui? Par la Russie. Par la Russie.
Et donc, mais si justement, dont la thématique qui nous concerne, c'est parce que il est évident que la formation universitaire, et d'ailleurs on va en parler avec Natalia Valiana, universitaire et dans les écoles et tout, est très importante parce que c'est le background. Mais la valeur ajoutée dans la formation que les entreprises peuvent amener, c'est justement c'est la formation avec la main dans la pâte, comme on dit, et dans des domaines bien spécifiques où on apprend réellement à quelqu'un comment construire, comment on fait de l'industrie, et ainsi de suite.
Vous savez que j'ai une expérience au temps de l'indépendance. Modibo Keïta, qui était le président du Mali.
Le président du Mali, oui.
Envoyait des gens en Russie pour apprendre à piloter. Mmh. Et nous, à Côte d'Ivoire, on envoyait des gens en France pour faire piloter. Modibo Keïta, en 5 ans, ces pilotes sortaient. Et ils étaient compétents. Et nous, il fallait mettre 10 ans pour avoir un pilote.
10 ans, ouais.
10 ans. Quand des gens viennent ici en Russie, ce n'est pas d'abord la théorie, c'est la pratique. Vous avez un médecin qui rentre, un étudiant qui rentre en médecine. Tous, on lui dit, voici un cobaye, il faut apprendre. On ne parle pas tellement des théories. Quand tu apprends sur le cobaye, tu apprends la théorie en même temps. Donc, on a besoin. La méthode de travail, la méthode de formation de la Russie, on en a besoin. Et nous demandons même que la Russie ouvre des centres pour que les gens parlent russe.
Des centres culturels, vous voulez dire.
Centres culturels, pour que les gens parlent russe. Mais j'ai dit toujours, il ne faut pas que la Russie soit timide. Il faut qu'elle soit agressive. Elle attend toujours qu'on l'agresse pour réagir. Jamais.
Et
je vois ça. Dans la partie, je vois ça. On l'agresse et puis elle réagit. Pourtant, elle peut prévoir les choses et réagir avant que les gens l'agressent.
D'accord. Bien. Alors, Natalia Valerievna, je crois que c'est un secteur qui est extrêmement important et qui est au centre des préoccupations de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS. Alors, vous pouvez toujours réagir à la première question et à ce que M. Henri Douetaille a dit, mais si vous avez une réaction avant que je vous pose la deuxième question.
Oui, si c'est possible, parce que j'ai deux commentaires. Avant tout, j'adore l'histoire. C'est pourquoi, être vraiment dans le contexte de relations russes-africaines, je propose à tout le monde de se rappeler du film Black to USSR. Et ce n'est pas juste le film pour rendre hommage.
Je l'ai vu.
Voilà. Aux professeurs, aux militaires, aux médecins de l'Union soviétique. Mais ce qui est vraiment très curieux et très impressionnant, parce que c'est la synthèse de rétrospective des années passées. Mais comme ça, il faut se rappeler que plus de 500 000 étudiants ont fait leurs études à l'Union soviétique et la diffusion des connaissances, même on peut dire des technologies, mais pas dans le sens commercial, a été déjà effectuée. C'est pourquoi notre défi maintenant, c'est dépasser les résultats qui ont été gagnés pendant la période de l'Union soviétique, parce que tout est possible grâce au progrès technique, grâce aux solutions pour dépasser les obstacles des distances et autre chose. C'est très touchant, parce que quand tu regardes ce film, tu vois aussi de formidables paysages des pays africains et ça peut inspiré. Et encore une chose, merci pour notre histoire assez glorieuse des relations diplomatiques entre la Russie et les pays africains. Mais l'Afrique, c'est le continent des jeunes. Oui, c'est vrai, à peu près 60%, c'est la population qui est très, très jeune. Et si on analyse un peu les lois économiques, on peut faire la conclusion que c'est vraiment une très bonne signe qui peut garantir l'épanouissement économique qui peut se réaliser très, très vite. Et pour donner un exemple, on peut nous adresser au miracle économique de l'épanouissement économique d'Inde,
oui,
qui a dépassé la Chine.
Absolument.
Et je pense que les pays d'Afrique ont plus de potentiel parce qu'ils sont riches dans le plan mental, dans le plan culturel. Les paysages, la musique, les contes, c'est impressionnant. Dans le plan des premières ressources et d'intérêt pour la Russie, parce que maintenant, la situation n'est pas trop facile, on peut dire comme ça. Mais s'il y a des intérêts communs, il faut juste commencer et agir dans ce sens, parce que tout est possible. La volonté, on est prêt à travailler, on est prêt à faire non seulement les partenariats, mais aussi à aider cette jeune population qui peut devenir l'un des continents les plus développés dans le monde. J'en suis sûre.
D'accord. Alors, la deuxième question pour continuer avec vous, Natalia Valerievna. Alors, il est également nécessaire de renforcer les liaisons justement bénéfiques entre le monde du travail et les systèmes d'éducation et de formation. Et redynamiser, accroître l'accès à l'enseignement supérieur, à la recherche, à l'innovation, en vue de relever les défis de développement du continent. Et je peux dire, moi qui suis issu justement de ce continent, que c'est ça qui manque aux pays africains. Donc, Il y a beaucoup de gens qui ont fait des études à l'étranger. Ils reviennent avec un savoir où ils ont appris à appliquer, mais pas un savoir savant qui les prépare à être des innovateurs eux-mêmes. Et ça est très, très attendu. La Russie est très, très attendue dans ce domaine. Et donc, je rajouterais que la place de la science, la technologie et l'innovation, justement, est au cœur du développement socio-économique et de la croissance de l'Afrique, notamment dans les secteurs essentiels comme l'agriculture, l'énergie, que vous avez cité tout à l'heure, l'environnement, la santé, les infrastructures, les mines, la sécurité, l'eau et autres. Alors, les entreprises russes, en particulier celles qui travaillent avec vous au sein de l'alliance BRICS, seraient-elles prêtes à aider les pays africains dans ce sens? C'est-à-dire, et je rajouterai encore, c'est ce que M. Taï a dit tout à l'heure, et à ne pas refaire la même politique des entreprises occidentales qui sont venues, ont appris comment appliquer certains procédés ou certains protocoles, mais sans, si jamais ils quittent, l'entreprise s'effondre parce qu'on n'a pas transféré le savoir-faire.
Oui, absolument, je comprends votre question. Et je peux dire, je peux donner un exemple de groupe des entreprises de Spoutnik, de ma ville natale. Il y a à peu près 800 employés dans les usines, dans les bureaux de Spoutnik, et plus de 30% des personnes qui travaillent là-bas sont de haute qualification et ce sont les ingénieurs. Mmh. C'est-à-dire, on peut imaginer et on peut évaluer correctement le niveau des connaissances et le niveau de management dans cette entreprise. Ce qui est très important pour ces sociétés, ce ne sont pas juste les buts financiers ou commerciaux, parce que ce sont les entreprises qui existent depuis longtemps et qui travaillent depuis longtemps en Russie. Ils ont des contrats avec d'autres pays. Mais pour eux, c'est très important former.
Je le confirme parce que j'ai moi-même visité une entreprise qui s'appelle Trek, dont la production des équipements sportifs. Oui. Et j'étais agréablement surpris, d'ailleurs Natalia aussi était présente, agréablement surpris par le type de management humain. C'est pas le néolibéralisme américain ou le libéralisme où l'être humain est juste un nombre dans les statistiques de fin du mois, mais c'est vraiment une relation de l'être humain au travail, à la créativité, et on ne donne pas la responsabilité que à celui qui a fait tous les métiers dans l'usine et qui connaît les détails de chaque chose. Et c'était vraiment impressionnant, et j'avais même proposé au DG de Trek de venir, avec votre présence, de venir justement livrer son expérience, et ça serait très bien justement dans le cadre de ce forum. Je vous laisse...
Et ce sera très agréable pour lui de partager son expérience et ses connaissances, parce que c'est très important de créer quelque chose, ensuite de faire former les employés parce que la population est jeune, c'est-à-dire ils peuvent travailler bien, ils peuvent travailler beaucoup avec intérêt et avec inspiration. Et ensuite, c'est le maintien. Et il ne s'agit pas seulement de maintien technique, ni pour Himrar, ni pour Spoutnik, ni pour Trek. C'est le maintien dans tous les niveaux. Parce que le perfectionnement professionnel, c'est au centre des missions de ces entreprises et c'est l'une des valeurs, j'ai commencé par ça, que ce sont les humains qui sont au centre des valeurs de la mission de l'Alliance BRICS. Mmh. C'est comme ça. C'est pourquoi transfert des technologies, je n'aime pas trop ce terme parce que c'est un peu de marketing. Mmh. Transfert, c'est-à-dire de vendre quelque chose, mais c'est plutôt évolution, formation et progrès, qui sont les mots-clés. Mmh. Transfert, mais dans le sens large, pas dans le sens commercial.
Mmh. Oui, absolument. Oui. Absolument. Et donc, est-ce que, justement, dans ce sens, il y a des programmes qui sont établis de coopération, justement, dans ce sens, avec l'Alliance BRICS?
Oui, bien sûr, parce que les entreprises qui sont les membres de l'Alliance suivent un peu la même logique pour former les employés, le staff, les personnes qui travaillent sur les terrains et sur les usines. Et ils sont sont absolument prêtes à partager leur expérience, comme Himrar avec la production des médicaments, comme PSS avec les constructions des batteries pour les voitures électriques. Il y a même déjà le niveau assez haut des connaissances et de l'expérience dans ce domaine-là. Il ne s'agit pas des entreprises qui sont très très jeunes, qui vont expérimenter un tout petit peu dans les pays africains. Non, c'est pas ça. Il s'agit vraiment de partager des résultats qui sont bien vérifiés, mesurés et modifiés d'après les conditions.
Perfectionnés.
Absolument.
D'accord. Bien. Alors... Henri Douetaï, je reviens à vous. Alors, l'Afrique contribue pour environ plus de 3% au produit intérieur brut au niveau mondial, mais ne dépense que 0,4% des sommes consacrées à la recherche et au développement. Donc, la faiblesse est patente et je rajouterai, je peux me le permettre parce que je suis d'origine africaine aussi, qu'il ne faut pas chercher loin pour comprendre quelle est la raison du sous-développement de ce continent. Quand on ne développe pas la recherche, la connaissance, ce n'est pas possible. Alors, le continent abrite 18% justement de la population mondiale, c'est ce que Natalia Valerna vient d'évoquer, mais ne fournit qu'un peu plus de 1% des chercheurs scientifiques de la planète. Pour un continent qui va compter jusqu'à 2 milliards, je crois, ou 2 milliards et demi dans les prochaines années. Alors, il compte environ un scientifique ou un ingénieur pour 10 000 habitants, alors que les pays industrialisés en comptent de 20 à 50. Bien. Alors, comment voyez-vous justement la coopération russo-africaine dans ce domaine clé pour localiser la jeunesse africaine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que les jeunes africains aillent se jeter à la mer en pensant qu'ils vont trouver l'Eldorado en Europe, alors que même les Européens eux-mêmes sont en train de se barrer et d'aller ailleurs, parce que visiblement, ce n'est plus attrayant de rester dans ce continent en ce moment. Et de promouvoir justement les industries de transformation sur place.
Je vous dis que c'est une volonté politique. Parce que nos chefs d'État ne pensent pas à la jeunesse. Ils ne pensent pas à la formation réelle de la jeunesse. Ils ne mettent pas les structures en place pour cette formation. Ils les laissent à leur devanture, ils les laissent comme ça, prendre la drogue, faire ceci, aller prendre la bière, boire des choses. Ils n'ont pas réellement la conception de la formation. Et ils oublient même de financer, de donner un grand budget à la richesse. Ils préfèrent donner ça à des futilités. C'est ça le problème. C'est ça le problème de nos chefs d'État. Ils ne préparent pas.
Et justement, si la jeunesse n'est pas formée...
Formée, du tout.
Parce que c'est un peu l'arme que le soldat doit prendre avec lui pour... se sentir capable de réaliser des choses dans la vie.
Si la jeunesse est formée, il n'y a pas eu de coup d'État. Les jeunes ne vont pas se révolter, prennent les armes. Il n'est pas formé. Elle vadrouille. Et la volonté politique, c'est la volonté politique.
Bien, là je comprends, mais comme vous organisez ce forum à Ouagadougou,
oui.
Et c'est certainement, bon, peut-être qu'il y aura des États qui seront intéressés de venir assister, mais oui. C'est essentiellement les entreprises privées. Alors, est-ce qu'il y a des espaces où les entreprises privées, justement, peuvent contribuer dans leur domaine de spécialité à former des jeunes et à donner les moyens de l'épanouissement à ces jeunes?
Au moment du forum, au moins.
Non, le forum, c'est une occasion de rencontre, mais je parle moi de la réalité. Comme disait Natalia Valerna tout à l'heure, il faut passer la phase des déclarations de bienséance et passer au travail pratique.
Il faut.
D'accord.
Il faut.
D'accord. Alors, Natalia Valerna, parmi les plus sérieux obstacles au progrès de la science, et de la technologie en Afrique, on compte la diminution continue de leur financement, la fuite des cerveaux. C'est une hémorragie, justement, le peu d'élite que les pays africains forment, comme il n'y a pas de débouchés dans les pays, et donc ils partent à l'étranger.
Il n'y a pas de débouchés. Comment les pays ? Ils ne sont pas bien payés ?
Oui. Donc, le départ donc, des personnels qualifiés pour d'autres pays, des niveaux d'alphabétisation trop faibles, et le manque de femmes aussi, suivant une formation scientifique et d'ingénierie. Yeah. Pas tous les pays, moi je connais l'Algérie, il y a beaucoup plus de femmes ingénieurs, docteurs, qui ont un doctorat que les hommes. Les plus diplômés en Algérie, c'est surtout les filles, les femmes, plus que les hommes. Et la qualité de l'enseignement dans les domaines de la science, de l'ingénierie aussi, est en baisse. Alors, nous avons la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui, comme vous représentez l'Alliance BRICS.
Oui.
Est-ce que il y a justement des choses, des projets, une vision de coopération avec l'Afrique dans ce sens, mais vraiment au sens pratique du mot, c'est de former, de donner les moyens aux jeunes où ils se sentent que ils sont capables de participer au développement de leur pays et leur donner l'enthousiasme et la fierté de le faire aussi.
Pour répondre à cette question, j'utiliserai plutôt les termes économiques tels que besoin et nécessité. Maintenant, oui, ce problème existe pour les jeunes en Afrique parce qu'il n'y a pas de nécessité des cadres bien formés, parce que c'est le problème de chômage, parce qu'il n'y a rien à produire s'il s'agit vraiment des choses sophistiquées, des hautes technologies et autre chose. Mais la réponse est plutôt banale et tout à fait claire. Et ça peut rendre vraiment la solution cyclique. Parce que pour répondre aux besoins, il faut créer la nécessité.
Mmh.
Et quand on commence par implémenter les entreprises, les usines qui vont travailler pour le profit des pays, pour l'épanouissement de la coopération internationale, ce sont les nécessités qui se créent.
Mmh.
Et puis, c'est le besoin qui apparaît.
Mmh.
C'est-à-dire, c'est manque des cadres, manque des professeurs, manque d'ingénieurs de haute qualification. Comme ça, à mon avis, et bien sûr, d'après la stratégie d'Alliance BRICS, il faut résoudre ce problème de deux côtés. On commence par montrer un bon exemple pour les jeunes que vous pouvez travailler en restant ici, dans vos pays, sur le continent africain, parce qu'il y a l'entreprise A, il y a la société B, qui font des choses très intéressantes, et ce n'est pas la peine de quitter le pays. Mais d'autre côté, on peut voir que si tu veux avoir un travail très intéressant, d'être vraiment payé, d'admirer la vie telle qu'elle est avec toutes les possibilités, il faut être bien formé. Et pour bien former, Alliance BRICS est en coopération avec certaines écoles, avec les universités de Kenya, par exemple, surtout les facultés d'agriculture, pour préparer des spécialistes. Comme ça, on peut adopter et diffuser, cette expérience pour plusieurs pays d'Afrique.
Mmh.
Et ça peut créer l'intérêt des jeunes de rester dans le pays et de faire tout leur meilleur possible pour le développement et pour l'épanouissement de leur pays. Moi, personnellement, je suis formée en Russie. Bon, je blague, mais je dis toujours trois fois parce que c'était trois universités différentes, trois facultés différentes. Et je suis très fière de ça et je suis reconnaissante pour ma patrie parce que c'est le niveau d'accessibilité de formation qui est garanti par notre pays. Mais pendant le forum, pendant les panels, pendant les sections, ce sont les échanges Ce ne sont pas seulement des réunions de protocoles et de belles photos et quelque chose. Non, ce sont les échanges, des expériences, des projets qui ont déjà été réalisés. Et bien sûr, on peut s'appuyer sur le portfolio des projets d'Alliance BRICS pour montrer un large éventail des possibilités pour les jeunes.
D'accord. Alors, une dernière question qui me semble aussi importante, c'est-à-dire en plus de la formation de pointe, par exemple, pour les ingénieurs, il y a le domaine de la formation professionnelle. C'est-à-dire que pour ceux, soi-disant, qui ont des problèmes ou qui n'ont pas pu aller loin dans les études, justement, avoir une vision économique, où va le pays, avec quelles entreprises et quels moyens, doit aussi s'adapter ou adapter une main-d'œuvre professionnelle qualifiée. Est-ce qu'il y a des choses aussi dans ce sens?
Oui. Oui, ça existe. Comme j'ai déjà dit, ce sont les ateliers, si on peut dire comme ça, de perfectionnement professionnel qui existent. Ce sont les sessions de perfectionnement professionnel dans les entreprises qui participent au BRICS, parce que c'est très important. Le niveau des connaissances, le niveau des connaissances provoque, si on peut dire comme ça, l'augmentation du niveau de vie. Et comme les humains sont toujours au centre de ce grand concept, ce sont les choses qui sont étroitement liées. Bien sûr, on va partager pendant le forum à Burkina avec plaisir les résultats des facultés, par exemple, des ateliers qui existent et qui sont animés même par les ingénieurs de Spoutnik pour les étudiants qui font leurs études dans les universités de ma ville. C'est pas pour signer le contrat et d'être payé par 16 heures particulier et supplémentaire. Non, c'est pas la cause. Comme ça, c'est l'approche, à mon avis, plus intelligente et plus rusée en quelque sorte. Parce que comme ça, ils peuvent investir un peu aux professeurs, aux cours, aux locaux ou autrement, mais ils préparent les cadres bien qualifiés pour le besoin concret de leurs entreprises, de leur site.
D'accord. Alors, un dernier mot, Henri Douetaï. Comme c'est vous le président de ce forum, qu'est-ce que vous avez à dire aux entreprises russes et aux entreprises africaines aussi pour animer ce forum et essayer de trouver des opportunités de coopération et de collaboration fructueuse, gagnante-gagnante?
Je souhaiterais vraiment qu'il y ait de nombreuses entreprises russes. Il faut qu'il y ait maximum des entreprises russes. Cela permettra aux africaines de voir l'intérêt que la Russie porte à l'Afrique et porte aux partenaires africains. Il faut que notre forum qui soit nombreux, massif. Et je compte sur Mme Nathalie pour faire le nécessaire pour que j'aie beaucoup d'entrepreneurs russes à ce forum.
D'accord.
La première édition.
Alors, un dernier mot, Nathalie Valerna.
Merci beaucoup pour votre confiance, Monsieur le Président. C'est un grand honneur pour moi et pour notre organisation. Merci.
Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Henri Douetaï, Natalia Pashkeva, je vous remercie pour cet entretien. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Et avant de conclure, je dirais aux entreprises africaines, vous avez une excellente interlocutrice avec qui vous pouvez communiquer pour enrichir ce forum, Natalia Valerievna Pashkeeva. Je crois que vous avez, nous ne pouvons que dire que vous êtes très compétente dans votre domaine.
Merci. Merci beaucoup.
J'espère que votre message, tous les deux, sera entendu et qu'il y ait beaucoup d'entreprises russes et africaines qui viendraient à ce forum.
Je compte beaucoup sur elle.
D'accord.
Merci beaucoup. Merci.
C'était Henri Douetaï, président de la Chambre de commerce et de l'industrie ivoire-russe, et Natalia Pashkeeva, interprète et communicatrice de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS en Russie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.